à être pris de honte éventuellement. Et aussi, ça dit, chapitre 4, verset 5, qu'ils vont devoir rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc, toute cette section sur la belle conduite du croyant, on voit qu'il y a quelques effets. On va voir trois. Ça va avoir des effets sur trois domaines, si vous voulez. Trois aspects. Premier aspect, c'est l'aspect apologétique, de défense de la foi. La manière que les chrétiens vont se comporter va avoir pour effet de défendre la foi chrétienne, de faire taire les mensonges, de rétablir la vérité. On avait vu qu'il y avait tellement de rumeurs qui circulaient sur les croyants à cette époque-là, que le fait d'avoir une bonne conduite allait faire taire les mauvaises langues, on peut dire ça comme ça. Un autre aspect qui est au niveau de l'évangélisation, on pourrait dire du témoignage. La bonne conduite des croyants devrait amener les gens à s'interroger, devrait amener les gens à se remettre en question. Et un des objectifs aussi, c'est que les gens arrivent à glorifier Dieu au jour où ils vont intervenir pour eux. On avait même vu que par une bonne attitude, un mari peut être gagné même sans parole, ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, l'attitude que le croyant est appelé à avoir va avoir cet aspect-là aussi de mission, d'évangéliser, de témoigner. Et le troisième aspect, c'est au niveau d'une bénédiction, parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à la parole, qui est attachée à la bonne conduite du croyant. On va voir qu'il y a question parfois de protection contre le mal. On prend le temps de bien définir ce que ça veut dire tout à l'heure. D'aimer la vie et voir des jours heureux. Chapitre 3, verset 10, c'est de ça qu'il y a question. Cette bénédiction-là va nous amener à être heureux, même dans la souffrance. Et ça va être le sujet vraiment de la prédication ce matin. Puisqu'on est béni, on peut être heureux, même à travers la souffrance. Dans le passage d'aujourd'hui, donc du chapitre 3, versets 8 à 17, on va se concentrer sur cet aspect-là, l'aspect de la bénédiction qui est rattachée à la conduite du croyant. Et je vais faire, pas une mise en garde, mais juste une précision ici. C'est pas d'avoir une bonne attitude pour être béni, mais c'est d'avoir une bonne attitude puisque nous sommes bénis. C'est parce que nous sommes bénis qu'on va vouloir avoir cette bonne attitude-là. C'est parce qu'on était graciés de Dieu que là, à notre tour, on peut donner de la grâce aux autres. C'est parce qu'on est aimé de Dieu qu'on peut en retour aussi aimer les gens autour de nous, aimer les uns et les autres. Comme Pasteur Alain aimait le dire, me le répéter il n'y a pas si longtemps, aimer les uns c'est facile, aimer les autres c'est plus dur. C'est ceux qui sont plus loin des fois. Donc, puisque nous sommes aimés, premièrement, maintenant on va pouvoir aimer aussi les autres. Puisque notre salut, il est réglé, ça dit que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, que le salut nous est réservé au ciel. On a cette assurance-là. Puisque pour nous, c'est réglé, annonçons aussi le salut aux autres. Puisque nous sommes bénis de Dieu, nous pouvons être heureux même dans la souffrance. On va prier, ensuite on va faire la lecture du passage. Seigneur mon Dieu, vraiment, je te prie de venir à notre secours. Seigneur, tu vois la tristesse, le deuil de l'Église ici en ce moment, Seigneur Dieu. Et en même temps, on a aussi cette réjouissance de savoir que notre frère est auprès de toi. On a cette réjouissance de savoir que même dans la souffrance, tu es avec nous et qu'on a cette relation-là avec toi. Seigneur, je te prie de préparer nos cœurs à ce message, que ça puisse être quelque chose qui va vraiment nous encourager et nous rassurer. Je te prie aussi de me donner ta paix, que par mes paroles, ça puisse être clair aussi le message que tu as pour l'Église ce matin. Amen. Donc, si vous voulez tourner avec moi dans 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 8. Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte, au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter une bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de la ruse, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Qui donc pourrait vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que, sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ soient pris de honte. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Un passage qui est vraiment riche, bien intéressant. Je vais le séparer en quatre sections. La première, on voit dans le fond l'attitude que le croyant devrait avoir en tout temps. Ça va être le premier verset, au verset 8. Au verset 9, on voit ce serait quoi l'attitude que le chrétien devrait avoir dans un contexte de persécution. Au verset 9. Les versets 10 à 12, on voit dans le fond le fondement biblique, la justification de pourquoi on devrait avoir ce comportement-là. Et la dernière section, les versets 13 à 17, on voit dans le fond l'application. Qu'est-ce que ça devrait avoir comme impact maintenant dans notre vie? Comment on devrait le vivre? Donc, je commence, je vais juste relire le verset 8 en premier. Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. Il commence en disant qu'on devrait tous être en parfait accord. Ça ne veut pas dire d'avoir le même avis, surtout. On peut avoir un avis différent sur le choix des chants qu'on va chanter, l'ordre dans lequel on va faire le culte. On pourrait avoir un avis différent sur la manière dont le prédicateur devrait être habillé. On peut avoir des avis différents sur certaines visions de l'eschatologie. Vous êtes dans l'Apocalypse présentement. On peut avoir des avis différents à bien des niveaux. Par contre, ce que ça dit, dans le fond, c'est de viser le même but, avoir le même objectif. Et la question qu'on peut se poser, mais alors, c'est quoi notre but? C'est quoi la mission que Dieu nous a donnée, sur laquelle on doit se dire, voici, c'est ça notre but. Pierre, il va dire qu'on était appelé à proclamer les hauts faits de Dieu, qui nous a fait passer des ténèbres à son étonnante lumière. On est appelé à glorifier Dieu par notre comportement. On est appelé à faire des disciples, à annoncer ce que Christ a fait pour nous. On est appelé à glorifier Dieu par notre vie, que toute notre vie puisse être au service de Dieu. On est appelé à chercher à plaire à Dieu. Ça, c'est notre objectif. Et c'est là-dessus qu'on doit tous être d'accord. Sur d'autres choses, Paul y va dire, même si vous avez un avis différent, il dit, au point où nous en sommes, il dit ça dans Philippiens, au point où nous en sommes, marchons dans la même direction. Puis si sur un point quelconque vous n'êtes pas d'accord, Christ va vous éclairer là-dessus éventuellement. Il dit, mais là, pour l'instant, là, let's go. Voici notre mission. On va proclamer ce que Dieu fait. On va proclamer sa grâce, son amour. C'est ça notre objectif. Et on va le faire ensemble. D'être en parfait accord. Sensible aux autres. D'être sensible aux autres, c'est de partager les mêmes sentiments. De se réjouir avec ceux qui se réjouissent. De souffrir avec ceux qui souffrent. D'être dans le deuil avec ceux qui sont dans le deuil. Ça veut aussi dire d'être sensible aux autres de rappeler c'est quoi notre espérance lorsqu'on est découragé. Et c'est ça que votre pasteur a fait la semaine dernière. Il a rappelé c'est quoi notre espérance en sachant qu'on a un frère qui est parti. Il l'a bien fait. J'ai bien apprécié ton message, Carl. De rappeler notre espérance à ceux qui sont découragés, d'être sensible aux autres. Il dit ensuite d'être plein d'affection fraternelle. Avez-vous remarqué que c'est pas normal, l'amour qu'on a entre nous? On est une famille, on a ce sentiment-là d'être en famille. En fin de semaine, il y avait un anniversaire, puis lorsque un pasteur a prié, puis il rappelait premièrement comment est-ce que une des promesses que Christ nous a fait, c'est que dans ce monde, on va perdre éventuellement père, mère, frère, sœur, les enfants peut-être. Mais que même dans ce monde, on va en gagner d'autres. Puis rappeler comment est-ce que tous ceux qui étaient à cette fête-là, on était vraiment en famille. On avait des frères et des sœurs, des pères, des mères, des enfants. On est rempli de cette affection-là qui fait qu'on devient vraiment une belle famille. Mais cette affection-là, ce lien de famille, on peut voir ça aussi dans d'autres associations. Une des particularités vraiment avec la famille chrétienne, qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas fermé sur nous, on est ouvert vers les autres. On veut partager cette relation qu'on a, on veut intégrer les autres dans cette relation-là. C'est pas une famille qui dit « Ok, on est bien entre nous, puis les autres, on met dehors. » Non, c'est une famille, on est tellement bien entre nous, on espère, on souhaite que vous rajoutiez à cette belle famille. C'est l'idée d'avoir une tendre bienveillance. La bienveillance, c'est de chercher à faire du bien aux autres. Et il termine avec l'humilité. Rempli d'humilité. Ça, c'est dur. Je reviens à Paul qui dit, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Que chacun considère non ses propres qualités, mais celles des autres. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, ça, c'est tough. J'ai constamment tendance à me considérer en premier. Ma femme peut en témoigner. C'est quelque chose que Christ, par son esprit, doit travailler en moi. Et tous ces points-là qu'on vient de voir sur c'est quoi l'attitude que le chrétien devrait avoir en tout temps, je ne sais pas vous, moi je regarde ça, il m'en manque pas mal. Mais ce ne sera jamais quelque chose qu'on va pouvoir produire par nous-mêmes. Ça, c'est les qualités que Christ veut produire en nous par son esprit. On a l'esprit de Dieu en nous et il veut nous transformer pour développer ces qualités-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait très bien que maintenant, ces qualités-là font partie de la volonté de Dieu pour nous. Alors, demandons-le à Dieu. Hein? Soyons sensibles à ça. Seigneur, j'ai besoin d'être plus sensible aux autres. J'ai besoin d'avoir de l'humilité, mon Dieu. Transforme-moi. Et par son esprit, Dieu va continuer à nous transformer petit à petit. On a par la suite, au verset 9, comment est-ce que le chrétien devrait agir dans la difficulté, dans un contexte de persécution ici. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. Lorsqu'on est insulté, les gens s'attendent à ce qu'on réplique par une insulte. En fait, si on réplique par quelque chose, par une parole douce, ça va déstabiliser. On s'attend, le monde s'attend à ce que lorsqu'on fait mal, l'autre nous fait mal. Si vous êtes dans une chicane avec quelqu'un, puis que le gars il s'approche de vous en enlevant ses lunettes. Soit qu'il s'attend que vous allez le frapper, ou qu'il se dit, moi je vais le frapper, et donc ils vont me frapper en retour. Hein? Ça, c'est ce que le monde s'attend de nous. Lorsque on est insulté, lorsqu'on nous fait du mal, on réplique en faisant du mal. Ici, voici l'attitude du croyant. On n'est pas appelé à faire ce que les gens s'attendent de nous, on est appelé à faire ce que Dieu s'attend de nous. Il s'attend à quoi de nous? Si on t'insulte, bénis. Bizarre. Mais c'est vraiment l'attitude que le croyant est appelé à faire. Paul, dans 1 Corinthiens 4, 12, il va dire, lorsqu'ils sont insultés, hein, il va dire, insultés, nous bénissons. Jésus, en Luc 6, 27 et 28, va dire, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous injurient. Ça, c'est l'attitude que le chrétien doit avoir et qui est vraiment contraire à ce que le monde s'attend. Mais ça veut dire quoi, ça? Bénir. Avant de rentrer là-dedans, j'ai un petit point que je suis en train de passer à côté. Il dit, on est appelé à bénir, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter une bénédiction. Dans la lettre de Pierre, il va parler souvent, il va nous dire que vous avez été appelés à telle chose. Et j'ai juste ressorti les endroits dans l'épître où il va dire à quoi on était appelé. Parce que quand on est appelé, c'est qu'on est appelé personnellement. C'est quelque chose qui vient nous chercher et nous dire, OK, je t'ai appelé toi, là. Voici à quoi on était appelé. On était appelé à devenir saint dans toute notre conduite. Chapitre 1, verset 15. On était appelé à passer des ténèbres à son étonnante lumière. Chapitre 2, verset 9. On était appelé à suivre l'exemple de Christ à travers la souffrance. Chapitre 2, verset 21. On était appelé à hériter une bénédiction. Chapitre 3, verset 9. On était appelé chrétien, notre nom, chrétien, et à glorifier Dieu en ce nom. Chapitre 4, verset 16. Finalement, on était appelé à la gloire éternelle de Dieu. Chapitre 5, verset 10. Voici ce à quoi on était appelé. On était choisi, nous sommes bénis de Dieu. Et encore une fois, puisque nous sommes bénis, bénissons aussi les autres. Et là, ça m'a amené vraiment à poser des questions sur c'est quoi la bénédiction? C'est quoi que ça veut dire être béni? Et c'est plus compliqué que ce que je pensais. C'est un langage qu'on utilise des fois, sois béni, mon frère, ou... Ça peut vouloir dire de dire du bien d'une personne, un peu comme de louer quelqu'un. Dire du bien d'une personne. Mais c'est plus compliqué que ça. Si vous rappelez-vous à Isaac, quand il a donné sa bénédiction, il ne l'a pas donné au fils qu'il voulait la donner. Il l'a donné à Jacob plutôt qu'à Ésaü. Puis Ésaü qui va le voir après, il dit, mais mon père, il doit bien te rester une bénédiction. Il dit, non, il m'en reste plus. Je dis, il t'en reste plus. T'es plus capable de parler. Pour moi, c'est comme... Il y a quelque chose que je comprends pas très bien ici par rapport à la bénédiction qui allait être donnée. C'est plus que juste souhaiter du bien. Donc, c'est complexe. Je vais pas amener toutes les réponses. Je vous amène plutôt des questionnements. Et peut-être que ça va vous amener à aller chercher vous-même d'autres réponses dans ce domaine-là. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir. J'ai regardé, puis dans le Proche-Orient ancien, on avait les bénédictions, mais il y avait aussi les malédictions, qui étaient vraiment quelque chose qui faisait extrêmement peur. Une grande partie de tout ce qui était cultuel, les prières et tout, avait pour but de contrer les malédictions. Les gens avaient extrêmement peur de toutes sortes de malédictions qu'ils pourraient recevoir. Les gens croyaient que, aussitôt qu'il y avait une malédiction qui était donnée, elle était chargée de pouvoir. Et donc, elle allait s'appliquer. Et les gens avaient peur de ça. Ils avaient besoin de protection contre ça. Dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament, on voit que l'emphase n'est pas tant sur la malédiction, mais plutôt sur la bénédiction. Et la plus grande bénédiction, c'est d'être choisi par Dieu. C'est d'être dans une relation avec Dieu. La bénédiction est d'être en relation avec Dieu. D'être celui ou celle qui appartient à Dieu. Ça, c'était la bénédiction du peuple d'Israël. Et quand c'est dit que toutes les nations vont être bénies par toi, toutes les nations vont pouvoir être incluses éventuellement dans cette relation-là avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, on voit que la bénédiction est aussi en lien avec cette relation-là qu'on peut avoir avec Dieu, par Jésus-Christ. Bien sûr, le côté matériel d'une bénédiction peut être présent, mais c'est secondaire. Ultimement, la seule bénédiction, c'est d'être en relation avec Dieu. De l'autre côté, ultimement, la seule malédiction, c'est d'être rejeté de Dieu. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Petite précision qu'on pourrait amener, faire attention de ne pas confondre bénédiction et grâce. Des fois, c'est au niveau du vocabulaire, mais on dit par exemple, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, on va dire, c'est une bénédiction. C'est un don de Dieu, c'est vrai, c'est une grâce. Mais la seule bénédiction, c'est vraiment de pouvoir être en lien, en relation avec Dieu. Je dis, ma femme et moi, on n'a pas pu avoir des enfants. On n'est pas maudits. On est bénis. Pas qu'on est béni de ne pas avoir d'enfants, on est béni parce qu'on est en relation avec Dieu. Et un point qui est super important, un enfant de Dieu ne peut pas être maudit, ne peut pas être sous l'emprise d'une malédiction. Il est béni de Dieu. Et c'est super important parce qu'il y en a parfois qui vont avoir peur d'être sous l'emprise d'une malédiction. Non. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes béni de Dieu. Vous êtes en relation avec Dieu. Il n'y a pas de malédiction possible. Dans le même sens, un enfant de Dieu ne peut pas non plus être possédé par un esprit du, par un démon. Et ça, j'étais confronté à cette croyance-là. À Madagascar, entre autres. C'est important de le préciser, je pense. Parce que des fois, je sais pas, on réalise pas à quel point la bénédiction de Dieu sur notre vie, elle est grande. C'est comme si on met dans une pièce, imaginez que vous mettez dans une pièce Dieu et un démon dans la même pièce. Dans une pièce que Dieu a dit, non, ici, ça, c'est à moi. Ça m'appartient. Puis là, on dit, il cohabite. Il n'y a pas de cohabitation possible. C'est pas possible. Si nous sommes bénis de Dieu, il n'y a pas de malédiction qui s'applique. Il n'y a pas de cohabitation à l'intérieur de nous pour l'esprit de Dieu et un esprit du monde. Nous sommes réellement bénis. Protégé, gardé par la puissance de Dieu. Donc, de bénir quand on est insulté ou quand on est maudit, qu'est-ce que ça veut dire? On peut vraiment réfléchir pour voir, est-ce que c'est simplement de, quand quelqu'un nous insulte, de dire des bonnes choses à son sujet? Ou bien ça pourrait être, quand quelqu'un nous agresse, de chercher à le mettre en relation avec Dieu, de chercher à l'intégrer dans ceux qui sont bénis, ceux qui sont en relation avec Dieu, de répliquer en bénissant, c'est de chercher à transmettre la grâce qu'on a reçue. C'est pas quelque chose qu'on méritait. Puis on se dit, c'est certainement pas quelque chose que l'autre qui vient nous agresser mérite, mais je l'ai pas plus mérité. Et donc de répliquer en bénissant, c'est de chercher à transmettre ce que Dieu nous a donné. Et donc on revient un petit peu dans l'aspect d'évangélisation ou de mission hein, que notre attitude devrait témoigner. Je continue la lecture. Pierre va citer le psaume 34 qui parle de comment est-ce que l'Éternel vient délivrer celui qui est dans la souffrance. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de la ruse, et qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. On voit ici qu'il fait un lien avec d'aimer la vie, avoir des jours heureux, une forme de bénédiction, on pourrait dire, présente, quelque chose qu'on ressent, qui est lié avec le comportement qu'on va avoir aussi, hein, de préserver sa langue du mal. Mais c'est quoi qui donne cette joie-là? Car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Ce qui va nous donner cette joie, c'est cette relation-là qu'on peut avoir avec Dieu. C'est de savoir que notre Dieu, il a ses yeux sur nous. Il a ses oreilles qui sont attentives. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Et pour nous, c'est même tellement plus que ça. C'est qu'il ne fait pas juste nous regarder, nous écouter. Il nous a adoptés. Est-ce qu'on peut avoir de plus que de pouvoir appeler Dieu Papa? C'est pour ça que Pierre va dire au début, maintenant vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse. On peut être transporté de joie parce que ce qu'on a reçu, c'est tellement précieux. Ici, remarquez à quel point ce qu'il dit ici, là, préserver sa langue du mal, ses lèvres de la ruse, qui s'éloigne du mal et fasse le bien. Remarquez à quel point c'est ce que Christ fait. Ce que Pierre va dire juste un peu avant, à la fin du chapitre 2, hein, Christ lui-même a souffert pour vous en vous laissant un exemple. Il dit, il n'a pas commis de péché, on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. On a tout ce que Christ a fait. On voit que c'est l'exemple par excellence. Mais comme on avait vu aussi, c'est pas simplement un exemple, parce que ce qu'il a fait pour nous, c'est pas juste un bon modèle à suivre. Il a fait ce qui était impossible pour nous à faire. Il nous a rachetés. Juste revenir rapidement dans le psaume 34 que Pierre prend le temps de citer. Il y a un verset, entre autres, qui me touche beaucoup dans ce psaume-là. C'est au verset 19. Ça dit, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Tout le psaume parle de comment est-ce que Dieu vient au secours de ceux qui souffrent et que ceux qui mettent leur confiance en lui ne sont pas déçus. Et je veux juste rappeler à vos souvenirs un événement qui m'a beaucoup marqué, qui était le témoignage de notre frère Jerry. Quand il y avait eu une bonne nouvelle, je me souviens, la joie qu'il avait, hein, la joie qu'il avait de dire qu'il a pu voir que Dieu prend soin de lui, qui était là, je regarde toujours là, mais c'est plus là, qui était là, puis il dit, je savais pas que j'allais pouvoir être là ce matin, mais là, j'avais juste le goût de danser, tu sais, plein de joie à travers une souffrance qui était vraiment présente. Mais cette joie-là, c'était quoi? C'était de voir comment est-ce que Dieu prend soin de lui. Puis je me dis, wow, ça, moi, je veux me souvenir de ça, parce que c'est un encouragement. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans la souffrance et puis qu'il peut voir la bonté de Dieu pour lui et que ça lui donne une joie comme ça, je veux me rappeler ça moi aussi pour quand je vais passer par des moments plus durs, de me dire, OK, mais voici ce que Dieu fait. Et parfois, on l'oublie. Quand on est dans l'épreuve, c'est dur de voir, de sortir la tête de l'eau, tu sais, des fois. Donc, il faut se le rappeler. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est le Dieu qui prend plaisir à nous sauver, à nous sortir de nos souffrances. Donc, on peut être heureux, même dans la souffrance, puisqu'on a cette relation-là avec notre Dieu. Au verset 13, on rentre dans les applications. Il va dire, « Qui donc pourrait vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien? » La question est un peu étrange. Parce qu'il me semble que c'est évident que des gens nous font du mal. La manière que Pierre le pose, c'est comme s'il a oublié des choses. Mais Pierre, il n'a pas oublié. Il dit, qui donc pourrait vous faire du mal? Pierre, il n'a pas oublié toutes les souffrances que Christ a subies. Qui a fait le bien par excellence? Christ. Et il s'est fait mettre à mort. Les gens l'ont détesté. Pierre, il n'a pas oublié que Jésus lui a même annoncé d'avance qu'il allait mourir en martyr. Pierre, il n'a pas oublié que Christ lui a dit « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. » Ça fait pas bon ménage. Que les disciples allaient être traités de la même manière que le maître était traité. S'ils ont mis à mort Jésus, attendez-vous pas à ce qui vous accueille les bras ouverts. Pierre n'a pas oublié tout son enseignement qu'il est en train de donner à travers la souffrance. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qui donc pourrait vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien? Il me semble, Pierre, tu vois bien, puis tu le dis toi-même, tu sais. Hein? C'est que pour Pierre, c'est tellement clair pour lui que c'est réglé. Notre cas, il est réglé. Là. Nous, on est sauvés. C'est fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Pour lui, c'est tellement... C'est réglé. Notre salut, il est réglé. On est des enfants de Dieu. Il n'y a personne qui va pouvoir nous enlever ça. Qui pourra vous faire du mal? Paul va dire, qui va vous accuser maintenant? On est justifié. On est des enfants de Dieu. On est des bénis de Dieu. Et ça ne pourra jamais nous être enlevé. Donc, la question que Pierre est en train de dire, qui pourra vous faire du mal? Il dit, écoutez, vous voyez ce que vous avez reçu? Et c'est gardé au ciel pour vous, dans le sens, ça ne pourra pas être enlevé. Personne ne peut faire du mal. Il y a un auteur qui écrivait pour faire une distinction entre les gens qui peuvent vous faire du mal ou les gens qui peuvent vous faire mal. Les gens nous font mal. Ils ne peuvent pas nous faire du mal. La distinction est dans le sens que notre état devant Dieu, c'est tellement réglé que les autres ne peuvent rien faire contre nous. Et ça, c'est encourageant. Il va dire, d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, c'est parce qu'effectivement, ça va arriver. Heureux seriez-vous. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on serait heureux de souffrir? Tu sais, c'est dur à comprendre. Puis Jésus, il va le dire aussi, hein, en Matthieu 5, 7, 10 à 11. Il dit, heureux serez-vous quand on va vous maltraiter à cause de moi. Vous allez être heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a un trésor qui, qui est gardé pour nous au ciel. C'est, on participe même aux souffrances de Christ. C'est comme une marque. Ça nous montre en même temps qu'on est sur la bonne voie. On a tendance des fois à penser que lorsqu'on souffre, c'est parce qu'on est dans l'erreur. Mais non, parce qu'on marche avec Christ, on marche à contre-courant et donc on reçoit des vagues. On reçoit les vagues de souffrance. Il va dire, ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Moi, j'aime ça. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. C'est quoi que les gens craignent? Ils craignent d'être persécutés. Ils craignent de souffrir. Ils disent, ne craignez pas ça, ne soyez pas troublés. Ce que j'aime quand il y a des passages comme ça, c'est qu'il ne fait pas... Là, c'est Pierre. Paul va faire la même chose. Il a dit, c'est pas juste, inquiète-toi pas, sois pas troublé. Puis il arrête cela. Il dit, soyez pas troublé, mais voici ce que vous devez faire. Dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Consacrez le Christ comme Seigneur. Et là, il fait une citation, en fait. Un autre passage, c'était dans... Je l'ai plus noté ici, je pense, c'est dans Ésaïe. Consacrez Dieu comme Seigneur. Et Pierre va dire consacrer Christ comme Seigneur. Il est en train d'affirmer ici même que Christ est Dieu. De ne pas se troubler par tout ce qu'on peut subir, mais de se rappeler qui est notre Seigneur. Et c'est ça qui va nous rassurer. Paul dans les Philippiens va dire, ne vous mettez en souci pour rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. C'est pas juste, OK, inquiète-toi pas, trouble-toi pas. Non, OK. Oui, mais fais quelque chose. Va devant Dieu avec ça. Et quand ça dit consacrer le Christ dans votre cœur, ça ne veut pas dire de manière secrète. Quand ça dit dans votre cœur, ça veut dire toute votre personne, l'entièreté de ce que nous sommes. Ce qui va dire soyez toujours prêts à présenter votre défense. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit secret. La vie chrétienne n'est pas quelque chose qui est secrète. C'est quelque chose qui va être aussi vu devant les hommes. De présenter notre défense, on voit qu'on est dans un contexte ici qui est difficile. Un contexte d'accusation, on doit rendre des comptes. Devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous, on doit être prêt à témoigner. Et c'est notre responsabilité aussi. D'être prêt à parler de ce que Christ a fait pour nous. De c'est quoi notre espérance à nous, qui a été rappelée la semaine dernière. Notre espérance. Un point intéressant ici, qui demande de rendre compte, il y a un vocabulaire qui est un peu financier. C'est-à-dire qu'on pourrait dire en quelque sorte que de répondre aux non-croyants qui nous demandent des explications, des justifications sur notre foi, c'est de s'acquitter d'une dette. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas mérité que l'Évangile nous soit annoncé. Et la personne qui vient, bon, peut-être même d'une manière agressive, nous poser des questions, ne l'a pas mérité non plus, mais il ne le mérite pas moins que nous. Et donc, on a cette responsabilité-là de répondre aux questions des gens autour de nous. Les questions qui, normalement, peut-être par notre attitude ou par les commentaires ou par ce qu'on va avoir dit, ça les amène à des questionnements. De répondre, d'être prêt à présenter notre défense. Et ça dit, mais faites-le avec douceur et respect. Douceur et respect, c'était les mots par lesquels l'apôtre qualifiait la conduite de la femme, que la femme devrait avoir avec son mari. Donc, messieurs, si on vous demande de justifier votre espérance, si on vous accuse, essayez de le dire avec le ton que vous aimeriez que votre femme vous réponde. quand vous êtes dans une chicane ou quelque chose. C'est-à-dire de vraiment avec douceur et respect. C'est pas avec une polémique, c'est pas en voulant, avec des paroles dures. Souvent, on voit des gens qui vont faire des débats, hein, qui vont défendre leur foi, mais c'est rarement fait avec douceur. C'est plus souvent fait en confrontation, puis on le sait, c'est pas comme ça qu'on va convaincre les gens, c'est pas comme ça que les gens vont être touchés. Ça, c'est... On s'attend à ce que lorsqu'on est en confrontation, l'autre réponde par une confrontation. Ce que Dieu s'attend de nous, c'est qu'on réponde par des paroles douces. Qu'on justifie, c'est pas qu'on dise, qu'on se taise, c'est qu'on justifie notre espérance avec douceur et respect. C'est dit, en ayant aussi une bonne conscience. D'avoir une bonne conscience, ça ne veut pas dire d'être parfait. Mais ça implique qu'on normalement, il ne devrait pas y avoir de contradiction frappante entre notre comportement, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Afin que sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ soient pris de honte. On voit cet aspect ici de défense de la foi. Le fait de présenter notre défense avec douceur, ça peut amener les gens à ceux qui nous accusaient à se dire non, j'avais pas de raison d'énoncer ces choses-là à leur sujet. Et là, on a la dernière phrase ici. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. C'est une phrase qui va comme résumer, dans le fond, tout cet enseignement qui est ici. C'est plus que simplement, tant qu'à souffrir, aussi bien que ce soit pour une bonne raison. On est d'accord que tant qu'à souffrir, aussi bien que ce soit pour une bonne raison, mais c'est bien plus que ça ici. C'est parce que notre but, c'est de faire la volonté de Dieu. De souffrir en faisant le bien, c'est de souffrir en faisant la volonté de Dieu, et c'est ça notre désir. Et là, moi, j'imagine notre frère Jerry qui rentre au ciel. Dieu qui l'accueille, qui lui dit, viens, bon et fidèle serviteur. Qui lui dit, les souffrances que tu as vécues, je les ai vues, je les ai comptées. Et maintenant, on va honorer tous ces actes d'obéissance que tu as eus dans la souffrance. Ce n'est pas qu'il y a un poids ou une valeur à la souffrance. Non, c'est que c'est fait, selon la volonté de Dieu, c'est fait dans l'obéissance. Si notre obéissance devant Dieu amène des souffrances, qu'il en soit ainsi. On fait la volonté de Dieu et on sait que ça en vaut le coup. Parce que c'est dans cette relation avec Dieu qu'on a. Donc, mon point ce matin... que je veux vraiment qu'on se rappelle à quel point le don que Dieu nous a fait, du salut, d'être en relation avec Dieu, c'est incroyable. Et cette relation-là qu'on peut avoir avec Dieu, c'est ce qui va nous amener aussi, lorsqu'on souffre, à pouvoir être quand même dans la joie. Et ce qui va nous amener aussi à, lorsqu'on est persécuté, de pouvoir appeler cette bénédiction-là sur les autres. Et ça veut dire d'essayer... de les amener à rentrer dans cette relation-là avec Dieu, eux aussi. C'est pas juste d'être déconnecté de notre corps et de se dire « la souffrance, on s'en fout ». Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est de se rappeler à quel point on est béni. Et cette bénédiction-là qui est sur nous, elle ne s'en ira pas. Alors, souhaitons que les autres autour de nous puissent rentrer ici dans cette bénédiction-là. On va prier. Seigneur mon Dieu, tu es bon, tu es grand, tu prends soin de nous et Seigneur, tu nous as rachetés, tu nous as appelés, chacun d'entre nous, et tu nous aimes. Seigneur, c'est un don inouï, c'est tellement grand qu'on a de la difficulté à l'imaginer. Et des fois, on l'oublie même, tellement c'est difficile à comprendre, Seigneur, comment est-ce que tu nous aimes. Rappelle-le-nous qu'on est en train de l'oublier. Et Seigneur, que ça puisse aussi être un sujet de joie et que ça nous rassure lorsqu'on est dans la souffrance. Seigneur, que ça nous amène à avoir cette protection-là, même contre le désespoir, de se rappeler que tu es avec nous tous les jours et que tu as un regard favorable sur nous, que tu as une oreille prête à entendre nos requêtes. Seigneur mon Dieu, donne-nous aussi le désir de pouvoir amener cette bénédiction-là aux gens autour de nous, Seigneur. Ce désir que les autres, même ceux qui nous accusent, même ceux qui nous maltraitent, puissent te connaître, mon Dieu, puissent rentrer eux aussi parmi le cercle des bénis, ceux qui sont tes enfants, Seigneur Dieu. Garde-nous humbles, mon Dieu, et apprends-nous aussi à nous aimer toujours de la bonne façon, et pas juste entre nous, Seigneur, mais donne-nous aussi ce désir-là d'annoncer ton évangile à ceux qui sont autour de nous, pour qu'eux aussi puissent passer des ténèbres à ton étonnante lumière. Seigneur Dieu, merci de nous garder dans la joie, et je te prie de faire du bien à toute cette Église ici en ce moment, mon Dieu. Amen.
Désolée, petit décalage.
Je vois tout.